Et je vais commencer en bottant en touche et en disant que si la marine a périclité sous Madame de Pompadour, ce n'est pas le cas de la police. En effet, au temps de Madame de Pompadour, Paris est une ville qui attire beaucoup de migrants, qui viennent surtout des campagnes proches, mais aussi des provinces plus lointaines, qui sont reliées à la capitale par tout un réseau routier composé des routes royales, des routes pavées, sans oublier la Seine qui... sur laquelle voguent de très nombreux bateaux. En effet, la capitale fait alors figure de véritable Eldorado et des dizaines de milliers de pauvres sont sur les routes espérant atteindre Paris. Nombre de ces pauvres vont s'agréger aux foules parisiennes les plus déshéritées. Ils déchantent vite et ils glissent pour survivre dans la délinquance pour une partie d'entre eux. En 1762, par exemple, un rapport de police, la police des mœurs, avance le chiffre de 25 000 prostituées à Paris. Le plus souvent, ce sont de très jeunes provinciales. S'ajoute une inquiétude, une sourde inquiétude, qui est celle des plus hautes autorités de l'État, qui sont désireuses, au milieu du XVIIIe siècle, de maîtriser l'opinion publique, et à une époque où la parole prend une ampleur soudaine et importante, donc. Alors la police joue évidemment un rôle de plus en plus important au cours de la période et ma communication va s'articuler autour de trois points. D'abord, un état des forces policières à Paris. Ensuite, la réorganisation vécue par ces forces policières au milieu du XVIIIe siècle. Et enfin, la police parisienne au service de Madame de Pompadour. Alors, sur cet état des forces policières, au XVIIIe siècle, Paris est divisé en 20 quartiers, il y a 48 commissaires de police qui sont chargés d'y prêter attention, sous le regard sévère et tatillon du lieutenant général de police, qui détient ses pouvoirs du Parlement. Parlement de Paris, il est le seul responsable devant le roi, à la fois magistrat et administrateur, et ses pouvoirs sont donc immenses. Il commande la politique des commissaires de police et, en tant que magistrat, il dispose aussi d'un tribunal au Châtelet, la chambre de police où il siège deux fois par semaine, chaque mardi, chaque vendredi, et des centaines de personnes passent devant lui année après année. La figure de Nicolas Berryer, vous en avez déjà beaucoup entendu parler, c'est la figure qui domine au milieu du XVIIIe siècle. Lieutenant général pendant 10 ans, de 1747 à 1757, lié à Madame de Pompadour, vous le savez, il s'attache à organiser les bureaux de la police. Il est très impopulaire à Paris. La marquise lui a toutefois donné toute sa confiance, pour des raisons que nous développerons plus loin, et elle a même projeté le mariage de son frère, Abel-François Poisson, marquis de Marigny, avec la fille de Berryer, Mademoiselle Berryer. Seulement voilà, Abel-François Poisson a refusé le mariage, ce qui a été à l'origine d'une discorde entre le frère et la sœur, une discorde assez durable, avec un sujet de dispute assez fréquente. En tant que commissaire du roi, le lieutenant général de police assume une fonction qui est comparable à celle des intendants de l'époque. Aussi se rend-il à Versailles chaque dimanche afin de satisfaire son souverain. Le lieutenant général doit tout savoir de la ville de Paris, il doit être présent partout. Il est le seul à pouvoir user des ordres du roi, c'est-à-dire les lettres de cachet qui sont si redoutées à l'époque. Pour tout mener à bien, il ne peut pas être partout, donc il dispose d'un important appareil policier qui est composé des commissaires de police, des inspecteurs, mais aussi des archers de l'hôpital général et des exemples de police. Donc c'est un personnage qui est si important qu'on peut dire que c'est un ministre qui n'en porte pas le nom. Le lieutenant général habite à la cour, il est isolé du monde parisien, et son influence secrète lui permet toutefois d'intervenir directement, par exemple pour dérober à la justice ordinaire de nombreux jeunes gens de famille qui trempent dans des affaires de vol, d'escroquerie ou de duel. De leur côté, les 48 commissaires de police sont les yeux de ce magistrat. Ils doivent surveiller sans cesse, poursuivre tous ceux qui tentent de se dérober à l'ordre et à la sécurité. Et leurs tâches sont immenses, évidemment, très variées. Ils exercent une autorité quasi universelle sur les quartiers dont ils ont la charge. Et chaque quartier parisien est sous la responsabilité conjointe de deux commissaires qui doivent y demeurer afin d'être directement au fait de tout ce qui s'y passe dans la rue et d'être au courant aussi très rapidement des rumeurs qui peuvent s'y développer. Les activités sont très vastes. Ils reçoivent des plaintes, des avis, des dénonciations quotidiennes. Ils dressent des procès-verbaux. Ils emprisonnent et ils rapportent ensuite les contraventions rédigées aux audiences de police. Alors pour devenir commissaire de police, il faut être propriétaire de sa charge, dont le montant atteint environ 40 000 livres pour un revenu annuel de 1 600 livres, traitement qui passe pour très insuffisant au regard de l'étendue de leur fonction et du coût de la charge. J'y reviendrai. Au milieu du XVIIIe siècle, ils perçoivent toutefois 3 livres tournois pour chaque plainte enregistrée. Et on peut se demander si on n'est pas là à la limite de la corruption. Ils reçoivent aussi des cadeaux et le tiers du montant des amendes qu'ils ont infligées leur est abandonné par l'État, ce qui pose évidemment d'insondables problèmes quant à l'impartialité de ces personnages. Alors au contraire des commissaires dont ils sont les auxiliaires et les collègues directs en quelque sorte, les inspecteurs de police ne sont pas des juges, bien qu'ils soient également qualifiés du titre de conseiller du roi. Alors on les reconnaît, ce sont des hommes de terrain, ils portent un uniforme bleu, ils portent l'épée, ils ont aussi un court bâton d'ébène d'environ 30 cm de long, à pomme d'or, gravé aux armes du roi, et ils circulent, à pied ou à cheval, généralement à pied, partout où leur fonction le nécessite. Ils se déplacent dans des lieux suspects, généralement dans les hôtels, dans les cabarets, dans les cafés, afin d'informer le commissaire de tout événement louche ou délictueux. Ils vérifient quotidiennement la bonne tenue des registres des hôteliers et des logeurs de toutes sortes. Ils observent ce qui se passe dans la capitale, mais aussi dans ses environs proches. Les rapports des inspecteurs sont inscrits dans des registres qui, après un certain temps, passent des bureaux de la police aux archives secrètes qui sont conservées alors à la Bastille. Et aujourd'hui, ces registres sont déposés à la bibliothèque de l'Arsenal. En 1740, la rétribution des inspecteurs, ils sont 20. La rétribution est mince, encore plus mince que celle des commissaires, puisque tout cumulé, on atteint 1000 livres tournois, 300 livres d'intérêt annuel, 500 livres de traitement principal, 200 livres de gratifications diverses. Ils installent leur bureau, ils recrutent à leurs frais leurs auxiliaires, et tout ceci les pousse très régulièrement à réclamer des indemnités qu'ils obtiennent ou pas, en fonction de leur aura. Donc, commissaires et inspecteurs peuvent compter sur une police active, visible aussi, qui est composée des soldats de la garde, du guet, des gardes des ports de la Seine. Et de jour comme de nuit, ils quadrillent les quartiers dans les rues de Paris, ils prêtent main forte aux fréquentes patrouilles qui sont menées à la fois par les commissaires et les inspecteurs, et, je cite, « leurs gens ». En 1753, la compagnie du guet compte 105 cavaliers et 566 archers à pied. Et ils assurent les emprisonnements, ils permettent le bon déroulement des exécutions, surtout place de Grève. Plus nombreuse, la garde de Paris compte 900 soldats qui sont chargés de surveiller les quartiers parisiens, s'y ajoutent plus de 3500 gardes françaises, des militaires, et les régiments de gardes suisses qui sont stationnés à proximité de la capitale, entre Argenteuil et Saint-Germain. La population nourrit à leur égard des sentiments qui sont assez ambigus entre la crainte et puis, au contraire, l'attente d'une protection. Tout dépend où on se place. Le gouvernement royal privilégie l'action préventive de la police, la sûreté, et l'action répressive par recours à la main forte. Et dans un tel processus, l'inspecteur occupe désormais une place centrale. Il devient un agent d'observation, responsable de la sûreté, avec une latitude d'action illimitée. Le travail des inspecteurs n'est alors plus uniquement policier au sens actuel du terme. Il suppose un contact permanent avec la population et, en plus de la surveillance, du repérage des suspects, du contrôle des entrées et des sorties des hôtels et des garnis, il instruit les plaintes envoyées par les commissaires ou le lieutenant général. Il s'occupe aussi de l'éclairage public, de la propreté des rues, des jets d'immondices, de la construction des maisons, de la fermeture des portes particulières le soir, en patrouille, et il assure aussi le rôle de conseiller auprès des habitants. Vous voyez que tout ceci est très large, et en outre, les plus compétents sont titulaires d'un ou plusieurs départements thématiques, en particulier, je cite, la surveillance des étrangers, des juifs, des francs-maçons, des exilés, des maisons de jeu, des prostituées, des sodomites, des spectacles, sans oublier la librairie. Et enfin s'ajoute un département majeur, celui de la sûreté, en conjonction probable avec la surveillance des étrangers. Alors, parmi ces inspecteurs, l'inspecteur Jean Pousseau joue un grand rôle sous la lieutenance générale de Berryer. Il est assez mystérieux, d'abord par sa grosse fortune qu'il a accumulée au cours de sa carrière, et aussi par le mystère de son entrée dans la police. On sait qu'il a été baptisé en 1703 à Tonnerre, en Bourgogne, qu'il est marchand de vin à Paris à la fin des années 20, et qu'il entre dans la police probablement vers 1737, sous la lieutenance générale d'Hérault. Il est d'abord exempt de police, puis inspecteur sous Marville, et il est tout à fait probable qu'il ait accédé à la charge d'inspecteur par la petite porte, car sa lettre de provision d'office reste introuvable, alors que toutes celles de ses collègues subsistent aux archives nationales. Sans doute a-t-il été directement recruté par le lieutenant général, hors des voies officielles. Or, les parents de l'inspecteur Pousseau, qui était marchand de vin à Tonnerre, avaient des relations parmi la noblesse du cru et parmi la bourgeoisie parisienne aussi. Alors ça a laissé des traces très visibles sur le contrat de mariage du policier en 1728. Et après avoir étudié ce contrat de mariage, on constate qu'un réseau est déjà en place, un réseau de solidarité, et l'un de ses membres les plus éminents est sans nul doute le sieur André Déon de Tesset, qui pendant 30 ans est le secrétaire en chef de la police parisienne. André Déon est aussi le protecteur de son neveu, le fameux chevalier Déon, baptisé à Tonnerre comme Pousseau en 1728. Donc par la suite, André Déon aura facilité la carrière de son neveu, comme il l'a peut-être aussi fait pour Jean Pousseau. Ce Jean Pousseau qui a laissé plusieurs registres, parmi lesquels un épais manuscrit de 438 pages, très original pour son temps. D'abord, il est très bien conservé, c'est une chance, et c'est un véritable sommier qui est muni d'une table alphabétique, les pages suivantes du manuscrit étant divisées en 5 colonnes, respectivement destinées à recueillir l'identité, l'âge, la profession des personnes arrêtées, le lieu où elles ont été écrouées, la date de leur arrestation, la mention « ordre de police » ou « ordre du roi », le motif de l'arrestation. Par ailleurs, entre ces tables, on trouve parfois intercalées des listes d'employés aux halles parisiennes, et tout ceci est une tentative réussie de classification à usage personnel, peut-être, collective, ça je ne sais pas, qui regroupe toute une série de renseignements à propos des délinquants, qui sont nombreux, hein, puisque le registre entre 1738 et 1754 contient les noms de 2692 personnes, et donc vous pouvez juger de son intérêt majeur. Quelques sondages ont permis de déterminer que 70% des individus arrêtés étaient des hommes, que malheureusement leur origine géographique est indiquée dans un tiers des cas seulement, mais pour ceux dont l'origine est indiquée dans un tiers des cas, ce sont des Parisiens âgés de moins de 30 ans, et pour les deux tiers, ils appartiennent au ce qu'on appelle le menu peuple. En outre, un gros tiers des personnes arrêtées le sont soit pour vol, soit pour recel de marchandises. Les violences à Paris sont plutôt rares. Alors ce sommier, je l'appelle le sommier, même si c'est un terme anachronique, le sommier de Jean Pousseau apparaît d'une originalité précoce qui est sans commune mesure avec les registres de ses collègues, enfin du moins ceux qui subsistent. On peut donc se demander s'il ne s'agit pas là du fruit des réflexions d'un policier des Lumières, très efficace, désireux de rationaliser son action, lorsque la volonté de mémoire, de classification, d'enregistrement de l'organisation policière tend à se faire de plus en plus précise au mi-temps du siècle. Et de précision, la police en a besoin, puisque les espions recueillent les bruits contradictoires qui circulent dans les cafés, sur les promenades publiques. Alors tantôt la marquise de Pompadour est enceinte, tantôt elle est disgraciée, on lui bâtit 8 palais à la fois. En 1749, elle doit recourir au réseau d'espionnage de la police parisienne, tandis que de son côté, son protecteur et parrain, Jean Paris de Montmartrel, garde du Trésor, rétribue les détectives à hauteur de 250 livres par mois. Parmi eux, l'inspecteur Pousseau, qui informe le 8 septembre 1743 le lieutenant-général Marville de la saisie des œuvres de Voltaire éditées à Genève, action qui aboutit à la fermeture de plusieurs librairies, dont celle de l'un des membres de la dynastie des Didot, qui est incarcéré à la prison au Fort-l'Évêque. Le 30 mars 1744, l'inspecteur envoie une missive à Marville pour l'informer des relations houleuses entretenues entre Voltaire et Madame du Châtelet. Très bien informé, probablement par l'un des serviteurs du philosophe, Il s'étend avec délices sur des détails domestiques qui prouvent la haute volée de ses informations. Pendant des années, l'inspecteur poursuit inlassablement la surveillance de Voltaire, et rien ne lui échappe, semble-t-il. Ainsi, l'arrestation de Pierre Jolivet, ancien domestique du président de la Croisette, est-elle rapportée au lieutenant général Berryer, car la Croisette est un ami de Voltaire, résidant à la cour de Prusse. À la même époque, Helvétius fait aussi l'objet d'une surveillance étroite. En 1744, l'inspecteur Pousseau est chargé de démanteler un vigoureux réseau de nouvellistes parisiens qui a été recruté par Jean Cabot de Rambaud, finalement mort en prison. Avec le commissaire de la Verger et l'inspecteur d'Adjonel, il enchaîne les perquisitions dans le milieu des libraires parisiens, saisit une multitude d'ouvrages interdits. Il arrête en personne le chevalier de Mouchy, fameux nouvelliste qui a trahi la confiance du lieutenant général de police Marville. Jean Pousseau s'illustre en outre dans la lutte contre la franc-maçonnerie. Et il n'hésite pas à utiliser sa propre épouse, qui évidemment n'est pas de la police, Marguerite, et il l'envoie enquêter à Fontainebleau sur la disparition d'un certain Bacharach, joaillier juif, et auteur d'une lettre en hébreu adressée à son frère Salomon, qui s'est installé à Londres, et je cite, « dans laquelle lettre il y en avait une autre écrite en français d'une écriture contrefaite et adressée au roi d'Angleterre ». L'inspecteur est donc un homme de terrain, spécialiste de l'espionnage politique et de la délation. Il intègre le cercle très fermé des agents au service de la marquise de Pompadour, dans un contexte résolument favorable à l'observation. Les ordres viennent de haut. Au cours des années 1747-48, l'inspecteur a rédigé une sorte de journal dans lequel sont notés les on-dit de la ville, les on-dit de la cour. Il s'efforce de fournir une idée de l'opinion publique sur les événements du jour au lieutenant général Berryer. Après comparaison, il s'agirait des brouillons des gazettins de la police secrète. Des centaines d'espions réguliers, payés en moyenne 50 livres par an, sont utilisés par le lieutenant de police. Mieux, selon un document fiscal rédigé en 1753 concernant le budget annuel de la police, il y avait bien 3000 mouches, c'est-à-dire des espions, 3000 mouches parisiennes qui se partageaient 1 million de livres tournois, en d'autres termes, la moitié de la somme allouée par l'État à la police. Les informateurs des cafés appartiennent à la bourgeoisie, il faut bien les payer, et c'est aussi, au milieu de la bourgeoisie, celui des inspecteurs le plus souvent. Louis XV lui-même se régale, dit-on, des anecdotes galantes de la bonne société parisienne, et par la même occasion, il peut pénétrer l'intimité de ses sujets. Et la surveillance atteint alors un niveau inégalé. Des histoires salaces, des secrets de famille, des surveillances de faits, de gestes du quotidien alimentent d'éventuels chantages, pour le plus grand profit de certains inspecteurs qui sont chargés de transporter les bruits du monde, tandis qu'à Versailles, la marquise s'est créée, on l'a vu, de solides inimitiés. En 1749, Monsieur de Maurepas, par exemple, se réjouit de la mauvaise santé de la favorite, et il déclare notamment, je le cite, « On sait que je l'ai empoisonnée ». Elle n'a pas apprécié l'humour, parce que, à la même époque, pendant de longs mois, elle craint les attentats, et en particulier, elle craint le poison. Elle porte sur elle du contrepoison, fait coucher son médecin dans son antichambre, elle fait surveiller ses cuisines, elle ne boit de limonade que servie par les siens. L'autorité royale est donc bafouée à travers la favorite, et le roi se résout à exiler alors Maurepas, qui était pourtant un très efficace ministre de la Marine. L'affaire Latude renforce encore les angoisses de la jeune femme. Le personnage a inventé un prétendu complot contre la favorite, et il lui a envoyé des fioles de poison, tout en la prévenant, par courrier, en espérant ainsi obtenir d'elle une récompense substantielle. Ce qui a été un très mauvais calcul, puisque Latude a ensuite été détenu à la Bastille pendant de longues décennies. Il en est sorti en 1789. Alors, pour revenir à l'inspecteur Pousseau, c'est donc l'un de ces policiers qui protège la marquise avec assiduité. Ainsi, en 1752, il arrête personnellement un certain Pierre Parisot, un tailleur de 22 ans, natif de Coucy en Champagne, et qui est soupçonné d'avoir porté une lettre à Versailles au sieur Gourbillon, valet de chambre de la marquise, afin qu'il la remette à sa maîtresse. Donc le pauvre ce Parisot est interrogé de longues heures, ça dure jusqu'à 4 heures du matin, ainsi que le note l'inspecteur Pousseau, et Parisot reconnaît avoir fait rédiger la lettre par un comparse, il ne savait pas écrire. Et comme Latude 3 ans auparavant, je cite, Il avoua imaginer le stratagème pour exciter Madame la Marquise à lui remettre de l'argent pour rembourser ses dettes. Il est incarcéré au Fort Lévêque. De son côté, la Marquise a tout lieu d'être satisfaite des services rendus par le lieutenant général Berryer et ses hommes qui sont tout à sa dévotion. Et après l'affaire Latude, elle affirme même publiquement que Berryer lui a sauvé la vie. Parmi ces policiers passés maîtres de l'espionnage, l'inspecteur Meunier, un collègue de Pousseau, joue un rôle fondamental. En 1751, il a reçu une très délicate mission de son supérieur, enquêter sur les rumeurs insistantes qui concernaient la grande vénalité de la maîtresse royale. Daté du 24 décembre 51, le brouillon de son rapport, qui a été conservé, très raturé, étudié par Robert Muchamblé, est un texte longuement réfléchi car il se doit d'innocenter la favorite de l'accusation d'exiger des pots de vin de ses protégés. Le texte est très bien travaillé et il est tout à fait possible que la fidélité de l'inspecteur ait été mise à l'épreuve par Berryer, d'autant que le comte d'Argenson, secrétaire d'État à la guerre et ancien lieutenant général de police, on l'a vu, était un ennemi irréductible de la favorite et suivait l'affaire de très près avec ses espions. L'inspecteur se place alors résolument du côté de la marquise. Il efface d'un trait de plume tout ce qui pourrait déplaire au lieutenant général Berryer. Il n'attaque frontalement ni le comte d'Argenson, ni la marquise, et il laisse plutôt planer ses soupçons sur des comparses de seconde main, la comtesse d'Estrade, qui est la maîtresse de d'Argenson, et le contrôleur général des finances, Machaut d'Arnouville, qui est un proche de la marquise. Alors une fois encore, on peut dire que la police a couvert efficacement Madame de Pompadour, qui s'en sort très bien. Elle en a bien besoin, parce qu'elle est d'une toute relative basse extraction, elle est maîtresse royale, et elle subit d'outrageuses allusions qu'elle ne supporte pas, en particulier toutes celles qui touchent à l'honnêteté de sa mère qu'elle adore, ainsi l'opuscule « Melota au Sampi, histoire africaine », qui sont des édifiantes aventures d'une prostituée noire au nom formé par l'anagramme de la mode poisson, donc le nom de la mère de la favorite, en est une illustration. L'ouvrage a été édité aux Provinces Unies et il a provoqué l'intervention des espions et de la police secrète de Louis XV jusqu'à Amsterdam. On a découvert l'auteur, La Roche-Géraud, qui a été livré par les Hollandais et finalement il va passer 30 ans en prison en France. Alors stigmatisé par l'injurieux pamphlet, la marquise se venge très habilement à la même époque en faisant lancer les inspecteurs chargés des mœurs, Meunier et Mathieu Marais, à la poursuite des ecclésiastiques débauchés, qui sont légions, puisqu'entre 1756 et 64, plus d'un millier d'ecclésiastiques connaissent l'humiliation d'être surpris en flagrant délit avec leur maîtresse. Alors si leurs aventures égayent Louis XV, la favorite lui prouve aussi que les gens d'église qui sont acharnés à lui jeter la pierre perpétuellement à cause de ses débauches sont finalement loin de posséder les vertus morales qu'ils exigent de lui. L'action secrète des inspecteurs de police fait et défait les réputations. Des milliers de rapports décrivent les us et coutumes des ministres, des courtisans, des diplomates, des étrangers de qualité, des filles publiques, etc., etc. Des écrivains, des juifs. L'observation joue alors un rôle indéniable dans l'éviction de Madame d'Estrade, qui est chassée de la cour subitement en 1755. L'année suivante, la marquise réussit aussi à se débarrasser de Conti, qui est le cousin et le confident de la diplomatie personnelle du souverain. Le prince de Conti étant le maître du secret, et il était jalousé par Madame de Pompadour, et il termine sa vie en exil dans sa seigneurie de l'Isle-Adam. Pour sonder l'opinion publique, on sait que Louis XV violait allègrement le secret de la poste, et chaque semaine, donc le lieutenant général de police Berryer et Robert Janel, dont on a entendu parler hier, décachetaient les lettres, venaient lui rendre compte. Madame de Pompadour n'est pas en reste, ainsi en 1757, grâce au lieutenant général Berryer, elle est capable de vaincre le redoutable comte d'Argenson. La lettre a été citée hier, le terme qui ne pouvait pas laisser le roi indifférent étant « nous serons les maîtres du tripot ». Donc cette lettre, qui effectivement peut avoir été fabriquée de toutes pièces pour provoquer la colère du bien-aimé, et conforter la place de Madame de Pompadour, qui était déstabilisée après les tentats d'Amiens, tombe exactement au bon moment. Quoi qu'il en soit, d'Argenson, qui est lié au dévot et qui est l'ennemi déclaré de la Pompadour, est exilé dès le mois suivant. Ainsi, la favorite renforce sa position et place ses fidèles, on l'a vu, et on peut dire que pendant les 7 années qui lui restent à vivre, de 57 à 64, Même si elle souffre physiquement et même si elle craint toujours des ennemis, elle a assis sa puissance sur le royaume, elle n'a plus de rivaux. Alors pour conclure, dans le contexte de déliquescence générale propre au règne de Louis XV, l'accroissement du pouvoir occulte de la police parisienne est patent. Chargé pour la plus grande satisfaction du souverain et de ses familiers de surveiller les humeurs des Parisiens et les principaux personnages de la cour, les inspecteurs de police étaient d'autant plus proches des élites sociales qu'ils répondaient à ces desiderata. Les policiers les plus efficaces, sans doute aussi parmi les moins honnêtes, en particulier lors du bras de fer qui a opposé la favorite royale au comte d'Argenson, formaient un réseau au service de Madame de Pompadour. Ils en tiraient très certainement de substantiels bénéfices. Véritables maîtres espions des lieutenants généraux Berryer puis Bertin, les inspecteurs Meunier et Pousseau, parmi d'autres, semblent avoir ainsi résolument profité de l'opacité du système qui avait été élaboré pour protéger les plus hautes strates du pouvoir. Je vous remercie.